Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
Et avant de retrouver le petit déj de l'actu avec nos éditorialistes Éric Revel, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy, bien sûr vos appels là au 0 826 300 300. Tout de suite, qu'est-ce qui fait parler ce matin? C'est avec Félix Mathieu.
D'abord, on regarde la une de vos journaux, Félix, avec pas mal d'actualités autour de l'automobile ce matin.
Et oui, la grande offensive des radars embarqués dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. D'ici la fin de l'année, il y aura plus de 200 appareils embarqués à bord de voitures banalisées conduites par des chauffeurs privés. À terme, cela pourrait quadrupler le nombre d'automobilistes flashés avec cette technique, nous explique Aujourd'hui en France. Attention donc à ces machines à PV. L'automobile du futur, voire même déjà au présent avec Le Figaro qui nous parle d'un grand défi de l'industrie française, le défi de la voiture électrique. La fin plus rapide que prévu du moteur à essence contraint toute la filière à se restructurer. La filière des moteurs thermiques qui pourrait perdre plus de 100 000 emplois dans les 15 ans à venir, nous explique Le Figaro. L'automobile dans le rétro, au contraire, pour Corse Matin avec la photo d'un taco de course en noir et blanc, une grosse roue de secours accrochée sur le côté de la carrosserie, à l'ancienne quoi. Il y a 100 ans, s'élançait la première course automobile en Corse, figurez-vous. Dossier donc dans Corse Matin sur ces pionniers des mécaniques, bien avant pour le coup les voitures électriques.
Bah un bel anniversaire en tout cas. On poursuit, on passe à l'affaire Mia cette fois-ci, Félix. Le gourou s'explique, c'est à la une de la Dépêche du Midi.
Hein. Et oui, Rémi Daillé-Widman a vécu en Haute-Garonne une dizaine d'années. Alors dans la Dépêche du Midi, qui a retrouvé sa trace en Malaisie, eh bien, l'homme soupçonné d'avoir joué un rôle central dans l'enlèvement de la petite Mia s'explique sur ces faits qui lui valent un mandat d'arrêt international. « Je ne suis pas un gourou », affirme l'ancien président du Modem de Haute-Garonne, qui a depuis viré extrême droite et complotiste, même s'il s'en défend dans cette interview. Mais sur le fond, il défend l'opération, affirmant avoir non pas enlevé Mia, mais l'avoir, je cite, « restitué à sa maman ». Une interview dans laquelle, eh bien, justement, il réitère non seulement ses appels à un coup d'État pour, je cite, « libérer le pays ». Mais alors concernant les enfants, comme Mia, dont la grand-mère avait la garde, il parle, je cite, d'enfants abusivement placés par les services de l'État.
Les larmes d'Elisabeth II, ça c'est dans Paris Match.
Oui, la reine d'Angleterre, masque et chapeau noir aux obsèques de l'homme qui a partagé sa vie, le prince Philippe. Elisabeth, le dernier combat, titre Paris Match, qui revient en image sur cet adieu sur les obsèques du prince consort d'Angleterre.
Et c'est un bien triste anniversaire pour Elisabeth II, puisque elle a 95 ans aujourd'hui, la reine, effectivement, d'Angleterre. Et puis on termine avec ça c'est le football, c'est la une de L'Équipe.
Oui, ça c'est le football, avec une photo de l'exploit des amateurs de Rumilly. Vallière 2-0 hier.
Les Savoyards, oui.
Ouais, face à Toulouse, en Coupe de France, les Savoyards qui se qualifient pour la demi-finale. Ça, c'est le football, sous-entendu, pas comme ce projet mal en point de Super Ligue européenne, hein, entre clubs super riches, car c'est l'autre dossier, évidemment, à la une de L'Équipe. La Première Ligue enterre la Super Ligue hier soir. Les 6 clubs anglais se sont retirés du projet dissident de Coupe d'Europe, dont l'échec semble désormais inéluctable. Et vous l'aurez compris, c'est pas le journal L'Équipe qui va pleurer sur cet échec.
Ah, on l'a compris, justement, ça fait en tout cas, merci Félix Mathieu, ça fait une transition toute trouvée pour retrouver Thierry Bouledouard, rédacteur en chef adjoint de l'Indépendant. Bonjour.
Bonjour.
Pour parler de football, notamment à la une de l'Indépendant catalan, parce que voilà, il y a eu l'exploit de Rémy Vallière hier face à Toulouse dans ce quart de finale de la Coupe de France. Du côté de Canet, vous le dites, on y a cru jusqu'au bout, défaite d'un rien face à Montpellier.
Bah, il a manqué 6 minutes au Canetois.
Exactement.
Et ce penalty transformé par Andy Delors pour que Montpellier se qualifie. Champion de nos cœurs, a titré Arnaud Ingré dans son compte-rendu de ce match où les Canetois, oui, pendant une mi-temps, ont cru un nouvel exploit. Hein, après Marseille, après Boulogne, ils pensaient les portes des demi-finales s'ouvrir devant eux. Mais malheureusement, le match a complètement changé en deuxième période. Et c'est Montpellier donc qui a fait jouer la logique sur ce terrain-là.
Avec des réactions, j'imagine, de joueurs, de l'équipe un petit peu. Ouais.
Beaucoup de réactions, notamment des deux coprésidents, des joueurs, des entraîneurs. Surtout, cette double déception pour les joueurs canetois, puisque la saison s'arrête, on le sait, les championnats amateurs n'ont pas repris. Cette Coupe de France était une grande aventure et une vraie libération pour eux. Et surtout, ils faisaient leur métier. Malheureusement, depuis hier soir, ils sont à nouveau des joueurs sans compétition.
Bah oui, sans compétition, mais en tout cas, ils nous auront fait rêver quand même jusqu'au bout. Cette équipe de Canet, en tout cas, face à Montpellier, cette défaite en de finale à la Coupe de France 2-1. Merci beaucoup.
Merci.
En tout cas, Thierry Bouledouard, rédacteur en chef adjoint de l'Indépendant, s'est retrouvé en tout cas dans l'Indépendant catalan aujourd'hui.
Allez, 9h10 sur Sud Radio, c'est l'heure bien sûr du petit-déj de lectu avec vos appels. Hein. N'hésitez pas à nous joindre au 0 826 300 300. Et nos éditorialistes, Éric Revel, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, rebonjour à vous tous.
Rebonjour.
Allô, allô.
Ah bah, on a Eric Revel déjà. On a Eric Revel et puis on va retrouver petit à petit eh bien Alexis Poulain et puis Elisabeth Lévy. Mais c'est l'occasion de commencer avec vous justement Eric et peut-être sur cette nuit un peu historique aux États-Unis hein, avec ce verdict hein, qui est tombé pour l'ancien policier Derek Chauvin déclaré coupable du meurtre de George Floyd. On a vu pas mal de scènes de liesse, de joie dans les rues. C'est une nuit qui marque une rupture finalement aux États-Unis, selon vous ?
Bon, enfin une rupture, je ne sais pas. Hein. Je ne crois pas que ce soit la première fois que un criminel, qu'il soit blanc ou noir, soit condamné pour un meurtre. Hein. C'est pas. Mais c'est vrai que l'affaire George Floyd est devenue un symbole dont s'est emparé d'ailleurs d'autres catégories de personnes dans d'autres pays. Alors il y a quand même deux choses, me semble-t-il, à dire, Benjamin. C'est que d'abord on ne connaît pas la peine de prison. Auquel va être condamné le policier qui a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Hein. Il est pas reconnu coupable au deuxième degré. Alors ça a son importance aux États-Unis parce que il y a en général une peine en face de la culpabilité pour un meurtre au deuxième degré, c'est 40-45 ans de prison. Mm. Bon là on n'a pas encore la peine de prison qu'il va faire. Alors c'est vrai qu'il y a des scènes de joie, des scènes de liesse. Je pense que c'était important, évidemment, que justice soit faite aux États-Unis. Et puis, politiquement, vous avez vu que le jury était extrêmement disparate. Hein. Il y avait des membres d'ethnies différentes, de couleurs différentes. Bon, voilà, c'est un peu l'Amérique qui essaie de se réconcilier avec elle-même. Je pense que Joe Biden a dû pousser un ouf de soulagement parce qu'un verdict contraire, mais enfin, dès l'instant où il est reconnu coupable d'un meurtre, Hein. Si vous aviez eu un verdict mi-figue, mi-raisin, là, vous pouviez avoir de nouveau des émeutes, des grandes difficultés. Finalement, Joe Biden, il fait un bon voyage hein, depuis le début de son mandat. Il fait pas de bruit, on l'a vu tomber de la passerelle de son avion, mais il avance, hein, c'est bien dire, il avance. Et puis il est servi un peu par des épisodes comme celui-ci où la justice américaine redore peut-être son blason pour certaines minorités. Et puis aussi il est servi par un contexte qui lui permet de montrer des muscles, Joe Biden face à la Chine, etc. Mais pour revenir à George Floyd. Bon, maintenant il faut attendre la peine à laquelle il sera condamné. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Tout le monde avait vu la vidéo. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire que de reconnaître le policier chauvin ou chauvine coupable. Mais je pense que politiquement, c'est très important pour le climat. Aux États-Unis et pour apaiser un peu les esprits entre des communautés qui se font face. Mm. Et d'ailleurs, on peut voir hein, tout le danger que représente d'ailleurs hein, ces face-à-face entre communautés d'un point de vue, j'allais dire, sémantique. Hein. Je dis ça parce que vous savez qu'il y a tout un débat aussi en France qui arrive sur le racialisme, le décolonialisme. Donc voilà, quand on exacerbe des communautés aussi, on arrive dans des situations qui parfois sont des impasses. Mais heureusement, la justice américaine a tranché et a reconnu cette culpabilité.
Elisabeth Lévy voulait réagir. Hein.
Bah justement, non, je suis tout à fait d'accord avec Eric. Je me demande si c'est parce que tout le monde nous dit un verdict historique. Je ne suis tout de même pas sûr que ce soit la première fois que le meurtrier d'un noir soit condamné. Donc, si vous
voulez, peut-être plus symbolique qu'historique, effectivement.
Il ne faut peut-être pas en rajouter sur l'historique et noircir le tableau de l'Amérique d'avant ce procès tout de même, même si Eric a tout à fait raison dans ce qu'il a dit. Mais surtout, ce qui me semble très important, c'est de ne pas transposer en France la situation américaine. Et si vous voulez, il y a eu une tentative du côté du comité Traoré, du côté de la mouvance indigéniste, si vous voulez, de nous expliquer que en France, on était dans la même situation. Non seulement nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même police, nous n'avons pas les mêmes relations entre, comme dit Eric, avec des guillemets, communautés, parce que chez nous, il y a surtout normalement, dans notre modèle, il y avait surtout des individus et pas des communautés qui vivaient ensemble. Et donc c'est ça le danger pour nous, si vous voulez. Il me semble qu'il est là parce que vraiment cela n'a strictement rien à voir.
C'est un verdict qui fait pas mal réagir au standard chez nos auditeurs au 0826 300 300. Il y a Christine qui veut intervenir à ce sujet. Bonjour Christine.
Bonjour Christine, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Benjamin, et ouais. bonjour à vos études. Alors justement, je suis entièrement d'accord avec Elisabeth Lévy, il ne faudrait pas que ce verdict qui vient de tomber là aux États-Unis fasse jurisprudence avec la France, parce que malheureusement, en France, on aime bien suivre les États-Unis. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ou...
Non, mais c'est vrai
on comprend très bien ce qui se passe idéologiquement aujourd'hui. On voit arriver ce qu'on appelle la gauche. Non, très consciemment. Il y a des gens qui très consciemment importent en France la gauche, ce qu'on appelle woke aux États-Unis. Mais je vois Alexis qui nous observe d'un œil. Je ne sais pas ce qu'il en pense.
Moi, j'en pense. Je pense que le woke, c'est un woke un peu comme pour la cuisine. On met tout dedans et on remue. Et c'est surtout un courant universitaire intellectuel qui se base sur des réalités sociologiques américaines. Nous, on importe ça effectivement sans connaître réellement, avec le décolonialisme derrière, avec tout un pan qui est là en train d'essayer de voir comment faire politique alors que c'est de la recherche en sciences sociales. Et donc, effectivement, c'est pas comparable. La police aux États-Unis et la police en France n'est pas comparable. Elle n'est pas armée de la même façon.
Mais l'idée même d'un privilège blanc, écoutez, c'est pas possible.
Alors, Christine, je sais pas votre réaction, Christine.
Je voudrais juste poser une question un petit peu pas simpliste, mais bon. Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix de ne pas condamner
Ça, c'est une question. Éric Revel, est-ce que vous pensez justement qu'il y avait vraiment le choix? Parce que vous avez parlé du risque aussi de face à face. Alors, oui, allez-y.
Non, mais attendez, enfin, moi je suis ni un expert de.
Bien sûr, bien sûr.
Des États-Unis, ni un expert de la justice américaine, mais dès l'instant où. Je veux dire, ils ont regardé les vidéos, on voit bien ce qui se passe, on voit bien qu'à plusieurs reprises, George Floyd explique qu'il est en train de mourir et le policier continue d'appliquer une technique qui est reconnue dans la police, mais qui lui a coûté la vie. Bon, voilà, il y a homicide, je crois, involontaire dans les conclusions.
Meurtre, pas homicide involontaire.
Bon voilà, la justice américaine est passée, il n'y a rien d'autre à dire. Mais si vous voulez,
ce que je trouve
un peu embêtant quand même aussi dans tout ça, c'est que quand vous voyez, par exemple, le président de la République nous parle de déconstruction de l'histoire française. Nous, on est dans un modèle en France où la République, c'est l'idée à l'origine que les minorités se fondent dans un tout. Or, on voit bien ce qui est en train de se passer en important une culture, comme disait Alexis Elisabeth, qui n'est pas la nôtre, qui est une culture américaine, faite d'États indépendants dans une fédération, on est en train d'importer un modèle qui précisément va à l'encontre de l'idée d'origine de la République laïque française. C'est-à-dire que nous, on est une république laïque dans laquelle les minorités, quelles qu'elles soient, religieuses, ethniques, politiques, se fondent pour former une république. Et les minorités en question sont en train d'inverser ce courant, c'est-à-dire faire exploser l'idée d'unité d'une république au profit de minorités et de communautés. C'est ça le danger quand même.
Elisabeth.
D'abord, j'irai même plus loin, c'est-à-dire qu'aux États-Unis et dans les pays, disons, multiculturalistes, on reconnaît les communautés comme étant, si vous voulez, les constituants qui forment le tout de la nation. Chez nous, on ne reconnaît tout simplement pas les communautés, puisque la République ne voit que des individus. Mais je voudrais répondre juste à la question, est-ce qu'ils avaient le choix?
Allez-y, on terminera là-dessus.
Je vais m'écarter. Je vais m'écarter deux, parce que, si vous voulez, en l'occurrence, nous avons la question, c'est celle des vidéos. Et je ne crois pas qu'en l'occurrence, il y avait tellement de doutes, puisque le procès a confirmé ce que nous avions tous vu. Mais il faut faire attention, justement, parce que très souvent, et là je parle de la France, les images, si vous voulez, on nous dit qu'elles parlent, mais parfois elles disent n'importe quoi. Et ensuite, si vous voulez, quand on a ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, quand on a l'intégralité des images ou des images filmées autrement, on n'a plus la même vision. Alors il faut faire attention avec cette affaire de vidéo. Je ne parle pas du tout, je répète. Je ne parle pas du cas de George Floyd. J'ai commencé par le dire.
Elle l'avait précisé.
Si vous voulez, mais rappelez-vous la vidéo. Rappelez-vous la vidéo de Michel Zecler. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il semblerait que, si vous voulez, ce qu'on a vu la première fois, c'était un peu moins simple, en fait. Et il faut se garder dans beaucoup de cas, il faut se garder de juger. Il y a eu beaucoup de vidéos aussi où on nous montrait des petits bouts. Alors on voyait un policier qui s'énervait, qui pouvait être brutal, etc. Et puis après, les policiers eux-mêmes mettaient sur les réseaux les vidéos, on voyait ce qui se passait avant. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui leur balance un pavé. Donc si vous voulez, c'est très...
Oui, alors dans le cas de... femme qui est poussée dans une rampe de métro.
Oui, absolument.
Le début était coupé.
Absolument. Donc dans le cas de George Floyd, je vais juste le répéter, il y a tellement... On a l'intégralité de la scène,
bien sûr.
Vous voulez. Mais effectivement, il ne faut pas que les jurés, il ne faut pas que les tribunaux, si vous voulez, soient contraints par des bouts de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça la justice. Mmh.
Merci beaucoup, en tout cas, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Eric Crevel. On vous retrouve tout à l'heure. Et puis merci, merci aussi à Christine Dallès qui nous a appelé pour, au 0826-300-300 pour réagir. Bien sûr, vous pouvez continuer à nous appeler.
Et puis continuez à voter surtout à notre sondage du jour. Êtes-vous favorable à la 5G après la dernière étude rassurante de l'Agence nationale de sécurité sanitaire? On en parle justement tout de suite après les infos. À tout de suite. Merci.
Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
À suivre dans une dizaine de minutes, on va parler de Génération Zombie, enquête sur le scandale des antidépresseurs aux éditions Fayard. C'est le titre d'une enquête passionnante, vous le verrez, de la journaliste carrément Ariane Denoyel. On verra pourquoi d'ailleurs les lobbies, la Big Pharma ne nous disent pas tout sur les graves effets indésirables des antidépresseurs. Mais tout de suite, c'est la suite du petit-déj de l'actu, avec bien sûr vos appels au 0826-300-300. Nos éditorialistes et un invité tout de suite en ligne.
Oui, c'est le docteur Marc Arazi, qui est docteur en médecine, à l'origine en 2016 des révélations du scandale du PhoneGate, président et cofondateur de l'association Alerte PhoneGate. Bonjour docteur Marc Arazi.
Oui, bonjour à vous.
Alors on est avec vous pour parler de ce rapport de l'ANSES qui a été dévoilé hier sur la 5G. Pas de risque nouveau, c'est ce que dit notamment ce rapport. Vous l'avez consulté, vous êtes convaincu par ses conclusions?
Alors absolument pas, et dans la présentation...
Alors, excusez-moi, mais alors là, on a un écho assez gigantesque, donc on va essayer de régler ça pour voir justement, alors je ne sais pas si vous êtes en haut-parleur ou quoi, mais alors mettez le téléphone à l'oreille, voilà.
Oui, ça sera plus simple.
Ça sera plus simple, et là j'ai l'impression que vous entendez mieux.
C'est la 5G,
voilà. Alors vous allez constater que je vais garder mon téléphone à distance et je ne vais pas le mettre à l'oreille.
Ah, ok,
effectivement.
Parce que quand on est médecin et quand on donne des conseils aux gens, et je suis venu souvent d'ailleurs à votre antenne expliquer qu'il ne fallait plus garder le téléphone au contact du corps, je crois que la meilleure chose, c'est l'exemplarité, c'est de ne pas faire c'est pour la bonne cause, en l'occurrence sur votre antenne.
Alors les conclusions.
Par rapport à votre question, et dans la présentation que vous avez faite, effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui, soit ont acheté des téléphones portables 5G, ou pensent acheter des téléphones portables 5G, et se sont posé la question de savoir si ce rapport, finalement, allait les rassurer. Et moi, mon propos, il va être extrêmement clair. Ce rapport n'est absolument pas rassurant et aujourd'hui, avec ces nouveaux téléphones, le risque, le danger de ces téléphones portables est toujours présent, voire même augmenté. Et donc, ce rapport, et je vous en dirai vraiment un point extrait tout à l'heure, est extrêmement, et entre guillemets, plus politique que scientifique. Et j'y reviendrai. La deuxième chose aussi, c'est que pour tous les gens qui sont aujourd'hui riverains d'antennes, d'antennes relais, et en particulier, je dirais, tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il y a des antennes partout, on va se retrouver avec la 5G dite millimétrique dans une pollution d'ondes. Et ce qui est très grave, c'est que finalement, on va tous devenir cobayes. Alors là, je vais vous lire trois lignes pour bien expliciter mon propos de l'avis de l'ANSES, qui est en page 9 de l'avis que tout le monde, tous vos auditeurs pourront lire. Voilà ce qui est marqué. Aucun résultat d'étude scientifique s'intéressant aux effets éventuels sur la santé de l'exposition aux champs électromagnétiques, spécifiquement dans ces nouvelles bandes de fréquences prévues pour la 5G, n'est actuellement disponible. Alors, voulez-vous me dire comment, à partir, je dirais, de cette phrase extrêmement claire, on est arrivé finalement à ce qui est, moi, ce que je trouve être une communication de la part de l'ANSES, je trouve proprement malhonnête intellectuellement.
C'est-à-dire qu'en gros, on ne se base pas suffisamment sur des données scientifiques sur ce rapport. En gros, c'est ça l'idée.
Là, en l'occurrence, si vous lisez l'avis, moi, j'ai pas encore eu le temps d'analyser l'intégralité du rapport, hein, qui fait plus de 250 pages, mais c'est ça pratiquement à toutes les lignes, une forme, si vous voulez, de confusion, d'amalgame. Enfin, c'est un rapport extrêmement contradictoire.
Quand vous parlez d'un rapport plus politique que scientifique, est-ce que vous pouvez expliciter, ça veut dire quoi selon vous là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez, alors, vous entendez?
Bah, clairement, si vous voulez, vous, beaucoup de journalistes l'ont remarqué, on a vendu extrêmement cher ces fréquences, près de 3 milliards d'euros ont été encaissés par l'État. Vous avez eu donc une mise en place bien avant la sortie du rapport, et donc finalement ça a créé une forme de pression politique et je dirais même industrielle sur l'ANSES. Et on s'est rendu compte depuis maintenant plusieurs mois, puisque notre association Alerte Onguet est membre du comité de dialogue Radio Fréquence et Santé, que finalement il y avait un glissement aujourd'hui depuis quelques mois de l'ANSES, et que on constatait de nombreux conflits d'intérêts de scientifiques qui ont été mandatés pour des études et qui sont considérés par nous comme des experts pour l'industrie.
Donc il y aurait des intérêts en tout cas là-dedans. Merci beaucoup. Docteur Marc Arazi, je vais arriver, excusez-moi. Je rappelle, vous êtes docteur en médecine à l'origine en 2016 des révélations donc, sur le scandale du PhoneGate. Et je le disais, un président et cofondateur de l'association Alerte PhoneGate. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous donner un peu votre avis en tout cas sur cette étude de l'ANSES qui fait beaucoup réagir aussi sur nos réseaux sociaux.
Qui fait réagir nos éditorialistes, je crois.
Exactement,
savoir, hein,
alors peut-être commençons avec Éric Crevel. Justement, vous avez entendu justement notre invité à l'instant. Il y a une question qui se pose aussi, c'est qu'il y a une concurrence internationale. Il y a aussi l'idée de ne pas prendre de retard sur ces nouvelles technologies qu'il ne faut pas oublier, j'imagine, aussi, sur ces questions-là.
Oui, il y a tout ça. Il y a l'aspect, évidemment, économique. Il y a l'aspect médical sur lequel j'aimerais revenir, même si j'ai aucune compétence, mais un peu de bon sens.
Ah oui,
il y a plein d'aspects avec le développement de la 5G. Vous avez vu aussi comment certains Chinois, Huawei, par exemple, s'est fait retoquer, parce qu'il y a aussi la question des data qui sont ponctionnées par ces réseaux de 5G et qui peuvent nourrir bien d'autres organismes. Donc il y a toutes ces questions-là. Mais pardonnez-moi sur la question médicale, hein, bon, évidemment, je n'ai pas de compétences. Je trouve quand même que le docteur qu'on vient d'entendre, hein, moi, je n'ai pas d'appareil 5G, il n'y a aucune raison que je m'y mette. Enfin, vous voyez, je suis pas. Mais j'aurais quand même soulevé quelques petits points.
Même le porno dans l'ascenseur?
Oh, bah alors, Elisabeth. Elisabeth Lévy.
À la fois, le docteur dit que les nouveaux appareils 5G représentent un problème pour la santé, mais aussi les ondes propagées par les émetteurs 5G. Bon, donc, si on l'écoute, il faut absolument, évidemment, ne pas passer à la 5G. Mais... il nous dit que dans le rapport de Lancet, il y a beaucoup de prudence. Ben oui, parce que souvent, dans des rapports scientifiques, que j'ai pas lu, hein, mais souvent dans les rapports scientifiques, qu'est-ce qui est écrit en réalité? Il y a de la prudence.
Alors là, c'est Lancet. C'est l'ANSES,
c'est que c'est en l'état des connaissances scientifiques qu'on peut affirmer telle ou telle chose ou ne pas affirmer telle ou telle chose. Donc en fait, voilà, l'autorité de régulation ouvre aussi le parapluie en disant, avec l'état de nos connaissances aujourd'hui, c'est plutôt comme ça, avis favorable, mais l'état des sciences évoluant, ça peut être différemment plus tard. Donc moi, voilà, c'est les réactions que j'ai quand j'écoute tout ça. Maintenant, on pouvait très bien vivre sans 5G aussi. Enfin, vous voyez, c'est pas... Moi, j'oppose progrès et progressisme. Je suis pas contre le progrès. Bon, est-ce que ça, c'en est un vrai? Oui, il y a des enjeux économiques colossaux. Oui, il y a des enjeux de liberté et de captation des data. Oui, tout ça est vrai. Bon, voilà, maintenant, écoutez, on va voir, j'habiterai pas à un endroit où il y aurait une antenne sur mon bâtiment, c'est sûr que ça me fera un peu peur, mais bon, pour le reste, j'en sais rien, je voulais juste, quelques remarques de bon sens.
Oui, bien sûr. Alexis Poulain, de passer à Elisabeth Lévy.
Mais moi, je pense que c'est un débat plus vaste, effectivement, que le domaine de la santé. Déjà, bon, je pense qu'on a le retour sur la 4G depuis qu'elle existe, la 3G, etc., que cette technologie, elle n'est pas non plus révolutionnaire par rapport à ces technologies passées. Donc, on a déjà quand même une base de travail pour les études scientifiques. Et puis, d'autres vont arriver. La question qui se pose, c'est encore une technologie que nous ne maîtrisons absolument pas, nous, Français, nous, Européens. On a là affaire à du matériel chinois, des réseaux américains, des technologies qui vont certes peut-être autoriser les entreprises françaises à développer des nouveaux outils, notamment tout ce qui est la Smart City, les voitures connectées, etc. Mais en attendant, c'est un peu la marche forcée, si vous voulez, de dire vous devez avoir cette technologie, sinon vous allez sortir de l'histoire, hein, un peu du développement, sans savoir si finalement on doit accepter ou pas cette technologie. Rappelez-vous les mots d'Emmanuel Macron extrêmement hautains en disant non, on n'est pas des amis, on prend la 5G. Mais la question sur l'acceptation technologique se pose parce que c'est une question politique et pas seulement une question de santé publique ou une question économique. Et derrière, c'est qu'est-ce que ça dit de nos économies, de nos pays, une fois que nous serons totalement dépendants de technologies que nous n'avons pas créées, que nous ne maîtrisons pas plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'Internet. Mais donc, on s'est habitué à cette colonisation technologique et on continue finalement sans la remettre en cause en pensant que c'est ça le progrès.
Alors Elisabeth Lévy nous parlait tout à l'heure des différentes manières d'utiliser la 5G dans l'ascenseur, mais au-delà de ça Elisabeth
vous rappelez, c'était les écolos qui avaient dit ça sert à rien.
Autant pour moi alors,
je
désolé,
je ne voulais rien dévoiler de ce que fait Eric Revel pendant ses loisirs, mais je reprenais les propos d'un maire écolo qui disait
autant pour moi Elisabeth,
la 5G ça sert à écouter du porno, à regarder du porno dans l'ascenseur, est-ce que c'est bien utile? Bon, alors d'abord, moi je vous avoue mon incompétence totale, je suis assez sensible à l'argument de la concurrence qui est réversible. Alexis nous dit très justement que effectivement c'est une vraie colonisation, mais il en tire comme conclusion que peut-être il ne faut pas y aller. Moi j'aurais plutôt tendance à dire il ne faut pas se laisser encore bouffer par les Chinois sur ce...
C'est ça.
Voilà, c'est plutôt ça. Mais je voudrais juste rappeler une chose...
Attendez Alexis, s'il vous plaît.
Pardon, je voudrais juste rappeler une chose sur les questions de santé. Il y a quelques années, alors ça devait être pour la 4G je crois, il y avait tout un immeuble qui avait fait tout un foin sur expliquant qu'il y avait des maladies, portant plainte auprès de France, c'était France Télécom à l'époque, et on s'était rendu compte que c'était l'antenne en question dont il était question et qui rendait tout le monde malade, en fait elle n'était pas en service. C'était un bout de fer, mais elle n'était pas allumée, si vous voulez, elle n'était pas branchée. Alors il faut faire attention avec ces légendes. Il y a aussi beaucoup de légendes légendes urbaines sur ces choses-là. Donc mais moi je reconnais, attendez, je préfère quand même le dire, ça c'est vraiment ma chimie personnelle qui parle et absolument pas mes connaissances en l'occurrence, hein. Que personne n'écoute.
Mais je pense que comme dit Eric Revel, on en est un peu tous là quoi à ce niveau-là.
Mais je trouvais l'argument d'Alexis finalement, l'argument de la concurrence, c'est peut-être celui-là qui me frappe le plus.
Ah bah voilà.
Mais peut-être Alexis
a convaincu.
J'ai pas bien compris
Elisabeth,
ce que vous vouliez dire Alexis.
Non, mais si, je disais qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est, on a mis le doigt dans cette technologie.
On est d'accord.
Dans le fait que si on a raté déjà la révolution numérique, globalement, hein, puisque les GAFAM sont américains pour la plupart, les Chinois maintenant se rattrapent, mais nous, en Europe, en France en particulier, on a raté cette marche-là. Donc là, si on en rate une de plus, évidemment, c'est un choix de société. Derrière, ça veut dire, on arrête tout, ou alors on ne peut pas continuer. Mais évidemment que l'économie va être de plus en plus numérique. C'est pas que le Great Reset qui suscite tant de fantasmes, mais c'est un fait. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises investissent massivement dans le numérique, que même les utilisateurs, on ne se passe plus de son téléphone pour la plupart d'entre nous. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Donc, il y a cette marche en avant qu'on ne remet pas en cause, où on ne prend pas le temps, disons, de la réflexion sur à chaque étape franchie, en disant est-ce que finalement on va dans le bon sens. Non, on y va parce que si on n'y va pas, alors là, on est sûr d'être déclassé. On n'est déjà pas forcément bien placé dans le classement mondial en termes de compétition.
C'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois, Alexis Poulain, Elisabeth
Lévy.
Salut
les amis.
Bonne journée à vous trois.
Oui, les amis.
Bonne journée.
Pas mal.
Je prends pas l'ascenseur.
Ouais, d'accord. Voilà. Et puis, fin de... Salut les amis. Fin du sondage sur le réseau.
Alors, le résultat final.
Écoutez, nos auditeurs ne sont pas du tout non plus convaincus par la 5G, malgré les études rassurantes. Non à 78%, ils ne sont pas favorables à la 5G. Allez, à suivre dans quelques instants un autre sujet qui va, à mon avis, vous faire énormément réagir.
Très polémique aussi,
Génération Zombie, une enquête sur le scandale des antidépresseurs. On en parle avec la journaliste Ariane Denoyel. Restez avec nous, il est 9h17.